Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la naissance d'une petite molécule qui fait grand bruit, la MDMA. Ce dérivé de l'amphétamine. C'est le composant principal de celle qu'on appelle aussi pilule de l'amour, l'ecstasy, une drogue de synthèse devenue l'emblème de la culture techno dans les années 80 et qui connaît depuis 2010 un renouveau explosif, hors du cercle restreint des clubbeurs et des rêveurs. Pas ceux qui rêvent, ceux qui ravent. Bon marché, fun, réputée inoffensive, la meilleure amie des fêtards, Molly, comme on l'appelle également, n'est pourtant pas sans risque. Le chimiste qui a popularisé la MDMA en 76, Alexander Cholgin, était loin d'imaginer le destin que sa molécule allait connaître. Loin des pistes de danse, celui qui dédia sa vie à la synthèse de substances psychoactives préconisait en réalité un usage thérapeutique de la MDMA. Du laboratoire californien de Cholgin aux discothèques britanniques, de la Maison Blanche au cabinet de psychiatres de Berlin à Paris, retour sur les débuts d'un règne controversé, celui d'une molécule aux usages tout à la fois bienfaisants et néfastes. Oui, les deux. Notre invité aujourd'hui, Anne Coppel, sociologue, spécialiste dans la politique des drogues et militante associative. Elle a fondé l'AFR, l'Association française de réduction des risques. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Entre drogue et médicaments, la frontière est parfois floue, comme nous le rappelle l'histoire de l'amphétamine, cette molécule stimulante qui voit le jour au tournant du XXe siècle et qui donnera bientôt naissance à d'autres molécules dérivées, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, la MDMA. C'est en 1930 que l'amphétamine, synthétisée 43 ans plus tôt par un chimiste roumain, Lazar Edelenaou, sort de l'ombre. Cette molécule est commercialisée sous le nom de benzédrine, un décongestionnant nasal pour les rhumes, qui est très rapidement détourné de son usage initial. Car le benzédrine ne débouche pas seulement le nez, mais sur autre chose. Oui, il l'euphorise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la benzédrine et d'autres dérivés de la famille des amphétamines sont distribués aux militaires, dans un camp comme dans l'autre. En 1941, lors de la bataille des Balkans, les nazis auraient combattu 11 jours sans aucun repos, galvanisés qu'ils étaient par des pilules de pervitine. En vente libre en Allemagne jusqu'en 1941, puis sous prescription, les amphétamines pénètrent jusque dans les ministères. Et Hitler lui-même en aurait été adepte. En 1945, un sondage révèle que 15% des pilotes américains en consomment, tandis qu'au Japon, 5% des ouvriers de l'armement y sont accoutumés. À la sortie de la guerre, aux États-Unis, c'est l'ensemble de la société américaine que les amphétamines vont toucher. À chaque firme pharmaceutique, sont dérivés plus ou moins stimulants, plus ou moins euphorisants, plus ou moins coupe-faim. Les amphétamines vont ainsi convaincre des étudiants ambitieux, des routiers fatigués, des hommes politiques stressés, dont John Kennedy, mais aussi des femmes au foyer désespérées. Maux de tête, stress, alcoolisme, dépression nerveuse. Dans les années 50, les amphétamines guérissent tous les maux. Et des millions de pilules sont ingérées chaque année par les Américains. En France, c'est l'affaire des cyclistes qui consomment notamment du Maxiton, ainsi que de certains intellectuels comme François Sagan ou Jean-Paul Sartre. Bref, qu'elle soit prescrite comme médicament ou détournée de son usage pour ses effets secondaires, l'amphétamine fait du bien. C'est ce que l'on pense alors. Et pourtant, les effets secondaires sont nombreux et déjà bien connus. Crise d'angoisse, insomnie, hallucination, addiction, comme le rappelle l'historien Jean-Jacques Ivorel sur France Culture.
Au fur et à mesure que l'on découvre de nouvelles substances, à chaque fois on les voit comme des progrès. Des progrès qui vont permettre une amélioration très souvent de la condition même de l'homme, puisque dans ces substances, on va voir d'abord des remèdes à la douleur, et puis de la douleur, on passe à la souffrance, c'est-à-dire à ce qu'on appelle alors la douleur morale. On y voit des stimulants intellectuels, et ça très vite, Et on voit aussi des remèdes à la folie. Il faut savoir que toute substance psychoactive qui a été inventée, qu'elle soit extrait naturel, enfin alcaloïde d'un produit naturel ou produit de synthèse, toutes les substances psychoactives qui ont été inventées ont été essayées dans les asiles psychiatriques sans aucune exception. Alors, il y a toujours un temps où on commence par voir ces produits comme des produits positifs, comme des progrès qui vont permettre à la fois le traitement d'un certain nombre de problèmes médicaux et des problèmes sociaux.
Et voici les années 50, les 50s et l'American Way of Life. C'est dans cette Amérique sous amphétamine, celle de James Dean et du McCarthyisme, que le chimiste Alexander Shulgin, retient bien son nom, il va revenir souvent, va révolutionner la recherche en termes de substances psychoactives. Né en 1925 à Berkeley, en Californie, le jeune doctorant en biochimie, ancien de la Navy pendant la guerre, travaille chez Dow Chemical, le géant mondial des produits chimiques. Il y développe notamment un insecticide, le Zectran, qui fera le bonheur des gazons américains. Pour le récompenser de ce succès commercial, Dow Chemical le laisse libre de mener ses propres recherches dans les laboratoires de l'entreprise. Shulgin, qui s'intéresse de près à la pharmacologie, vit alors une expérience qui va orienter le cours de sa vie scientifique. En 1960, il découvre la mescaline, le principal constituant du peyote, un petit cactus d'Amérique centrale, l'une des plus anciennes substances hallucinogènes de l'histoire de l'humanité. Et il se souvient.
Oh, gosh, about 40, maybe 40
oh mon Dieu, pour une expérimentation, j'ai pris 350 mg de mescaline. Dans l'idée, je savais ce que ça provoquait, mais je ne l'avais pas éprouvé moi-même. Nous étions 10, la moitié expérimentait le produit, l'autre moitié faisait des babysitters. J'étais totalement abasourdi par ce qu'il s'est passé. Je me suis soudainement retrouvé dans un monde extraordinaire, à la fois physique, visuel, sensoriel. Et ma première réaction, ça a été « Comment cette drogue provoque ça ?» Ça a élargi mes perceptions et ça m'a captivé. Depuis, je n'ai cessé de faire des recherches.
L'expérience convainc le chimiste de se consacrer aux composés psychoactifs qu'il considère, je le cite, comme des outils pour étudier l'esprit humain. Jolie formule. Au début des années 60, Alexander Shulgin n'est pas le seul à porter un intérêt scientifique aux substances psychédéliques. Les amphétamines, la mescaline et l'ESD ne sont pas interdits. Et de nombreuses études sont menées à leur sujet, notamment dans le domaine de la psychiatrie. Le jeune chimiste publie donc ses recherches dans des revues spécialisées conventionnelles et Dow Chemical brevette plusieurs de ses trouvailles. Parmi les découvertes publiées par Alexander Shulgin, le DOM, une amphétamine dont la formule va être récupérée par un chimiste de San Francisco, dealer sur les bords, Nick Sainz, renommé STP pour sérénité, tranquillité, paix. Le psychotrope est distribué gratuitement lors du festival Human Being qui se tient en 1967 à San Francisco et qui marque le début du Summer of Love. Le poète Allen Ginsberg chante des mantras, le soleil brille, les hippies planent. Mais certains s'envolent trop haut, ce 14 janvier 1967. 5 fois plus puissant que la dose préconisée par Alexander Shulgin, le STP de Nick Sainz est loin de n'être qu'amour et sérénité. Non, les urgences de San Francisco sont débordées par des bad trips de dizaines de jeunes qui restent coincés dans leur délire pendant plusieurs jours. Suite au festival Human Being, le STP est interdit sans qu'Alexander Shulgin, à l'origine de la formule mais pas de la commercialisation du produit, ne soit inquiété. Dow Chemical, la multinationale qui emploie le chimiste, craint alors que ses recherches ne ternissent la réputation d'entreprise. Shulgin prend donc son indépendance, comme il le raconte dans un documentaire de Hamilton Harris diffusé par Vice.
Ils étaient de plus en plus mécontents que je travaille sur ce qui m'intéressait, les drogues psychédéliques. Ils n'avaient pas particulièrement envie de s'impliquer commercialement là-dedans. Ils m'ont assez vite découragé de poursuivre dans cette voie. Donc j'ai commencé à publier de chez moi. Ça les a vexés et je les ai finalement quittés. Je suis retourné à la fac et aux écoles de médecine. Je me suis beaucoup amusé là-bas.
Professeur à l'Université de Berkeley et au General Hospital de San Francisco, Alexander Shulgin installe un laboratoire dans son jardin, sur un mont recouvert de pins et de chênes, une maisonnette de tôle ondulée au milieu des plantes grimpantes, une sorte de maison bleue adossée à la colline, vous savez, on y vient à pied. C'est en tout cas un capharnaüm digne des laboratoires d'alchimistes les plus romanesques. Une odeur de pneus brûlés, des burettes et des bocaux à n'en plus finir, façon savant fou à la Frankenstein ou retour vers le futur. En tout cas, c'est là que Shulgin va synthétiser des substances psychédéliques inédites, qu'il teste d'abord sur lui-même pendant plusieurs semaines et dans des quantités infimes, avant de les proposer à un groupe d'amis chercheurs quand elles lui semblent intéressantes et surtout inoffensives. Des voyages exploratoires rigoureusement analysés, consignés, loin des expérimentations spirituelles menées par les hippies sur le campus de Berkeley, à la même époque. Alexander Shulgin poursuit donc une visée scientifique, comme il l'affirme d'ailleurs dans une interview accordée au journaliste néerlandais Luxala.
Ce que je cherche, ce n'est pas la conscience ou l'amusement ou le plaisir. Je cherche des outils qui aident à rester dans l'esprit que d'autres utiliseront pour comprendre le fonctionnement de la psyché. Moi, je ne fais que des outils, puis je laisse les autres les exploiter.
Donc vous êtes intéressé par le fonctionnement de l'esprit, du cerveau?
Oui, complètement, mais l'esprit, pas le cerveau. Nous sommes à l'ère du cerveau. Tout le monde fait des recherches sur les neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine. C'est merveilleux, mais beaucoup d'études sont menées sur les animaux. Moi, je m'intéresse aux processus mentaux humains. Qu'est-ce qui affecte nos attitudes, nos représentations? Des sentiments comme l'extase religieuse, la paranoïa, des choses qu'on ne peut pas expérimenter sur des rats.
Le festival Human Being en 1967, puis le Summer of Love du quartier Piloid Ashbury à San Francisco, la chanson des Beatles Loose in the Sky with Diamonds, dont l'acronyme fait LSD, toujours en 67, puis évidemment Woodstock en 69, ou encore les concerts de l'île de Wight en 1970... Pour les jeunes, hippies, étudiants, protestataires qui s'y réunissent, la drogue est une façon de s'échapper, de transgresser et d'affirmer sa liberté. Cannabis, LSD et amphétamines hallucinogènes y circulent abondamment, provoquant fascination et répulsion de la part des médias et de l'opinion publique. En réaction à la politique des démocrates, jugée laxiste, Richard Nixon, candidat républicain à la Maison-Blanche en 68, s'engage dans une guerre contre la drogue, War on Drugs, qu'il poursuivra après son élection. Alors, c'en est fini de l'American Way of Life, sous en fait des mères de famille shootées au Benzedrine et des hippies défoncés au STP, en 71, les amphétamines sont déclarées illégales. Tandis que l'interdiction des autres substances psychotropes, LSD, cannabis en tête, est renforcée par une loi fédérale. Dans un célèbre discours, le président Nixon annonce ainsi la nouvelle position des États-Unis face à la consommation de drogue.
Mesdames et messieurs, voilà comment je vais résumer pour vous le rendez-vous que je viens d'avoir avec les leaders républicains et démocrates. J'ai commencé la rencontre par ces mots. L'ennemi public numéro un des États-Unis, c'est la drogue. Pour combattre et vaincre cet ennemi, il faut mener une nouvelle offensive. J'ai donc demandé au Congrès de fournir les lois et les fonds nécessaires à une telle offensive.
Une guerre contre la drogue aux accents éminemment politiques, si l'on considère que le nouvel arsenal législatif, très restrictif, concerne en premier lieu la jeunesse étudiante et protestataire, celle qui est opposée justement à la guerre du Vietnam. Quoi qu'il en soit, la politique répressive de Nixon en matière de psychotropes inspire l'Europe. Et en premier lieu la Suède et la France, qui modifient elles aussi leur législation pour lutter ce qui est considéré comme un danger social autant que sanitaire. Ecstasy. Ecstasy. Alexander Shulgin, désormais chimiste indépendant, est recruté par la Drug Enforcement Administration, les STUP américains, créés en 73 par le président Nixon, comme expert et formateur dans cette institution plus connue sous l'acronyme DEA. Loin d'être un marginal, le chercheur est régulièrement invité à partager son expertise auprès des tribunaux lors de procès liés aux stupéfiants. Et il entretient des amitiés au sein du pouvoir. Membre du Bohemian Club de San Francisco, un cercle de financiers et politiques conservateurs, il profite également de ses entrées à la DEA pour se voir attribuer une licence l'autorisant à posséder et manipuler des substances illégales. Durant les années 70, Shulgin va poursuivre ses recherches sur les substances psychoactives qu'il continue de tester lui-même dans une démarche toujours scientifique. Ma drogue préférée, aime-t-il à répondre. Oui, c'est celle sur laquelle je travaille en ce moment. En 1976, en effet, il découvre la molécule qui fera sa renommée dans le monde entier et qu'on appellera bientôt Ecstasy ou MDMA. Enfin, découvrir. Redécouvrir, plutôt. Car c'est l'une de ses élèves qui lui parle de cette molécule oubliée, brevetée comme coupe-faim. Elle s'appelle Laurence L'Enfumée. Elle est chercheuse en neurosciences. Elle raconte sur France Culture.
Alors, elle a été trouvée, en fait, ça fait une centaine d'années maintenant, hein, au début du XXe siècle. C'est un chimiste des laboratoires Merck en Allemagne qui synthétisait des dérivés amphétaminiques pour trouver des drogues anorexigènes et qui a synthétisé, je crois que c'était en 1912, cette molécule. Le brevet a été déposé quelques années plus tard, mais la molécule n'a pas été autorisée à être mise sur le marché parce que justement, il y avait des effets curieux, bizarres, qui à l'époque n'ont pas été étudiés. Donc la molécule n'a pas été développée, elle est restée telle qu'elle. Et dans les années 50, c'est les militaires américains qui l'ont retrouvé, qui l'ont utilisé comme sérum de vérité, puis aussi pour retenir les soldats en éveil, parce que c'est une molécule qui est éveillante.
Shulgin n'a donc pas créé la MDMA, mais il en développe une nouvelle méthode de synthèse qu'il décrit dans un article en 1978. Et c'est la première publication sur cette molécule, ce qui vaudra à Shulgin le surnom erroné de « père de la MDMA ». Un état de conscience altéré, aisément contrôlable, avec des accents émotionnels et sensuels. C'est ainsi qu'Alexander Shulgin et son co-auteur, le chimiste David Nichols, décrivent les effets de la molécule. Pas de hallucination, mais une empathie exacerbée, comme l'expose Pascal Nouvel, auteur d'une histoire des amphétamines.
L'effet de cette molécule est de produire des affects. Produire de l'affection pour les personnes qui sont là, qui sont en face. Sont à proximité, disons. Et ça, c'est immédiatement quelque chose que Shulgin va trouver tout à fait intéressant, qu'il va trouver intéressant aussi d'un point de vue thérapeutique. Parce que, se dit-il, cela peut être utilisé non pas en remplacement d'une thérapie classique où on se fonde sur la parole, mais en complément. C'est-à-dire que la personne qui aurait absorbé de l'ecstasy, enfin du MDMA, est plus communicative parce que davantage en confiance avec la personne qui est en face d'elle, donc le thérapeute, et donc du coup se met à parler davantage de ce qui lui est arrivé.
Alexander Shulgin, qui perçoit le potentiel thérapeutique de la MDMA, la propose à Leouzef, un psychologue d'Auckland, connu pour ses séances de psychothérapie sur l'usage du LSD. Zef adopte immédiatement la molécule qu'il surnomme Adam, parce qu'elle aide le patient à atteindre son innocence originelle, dit-il. Bien, d'autres thérapeutes vont suivre, comme Anne, celle qui deviendra bientôt la femme d'Alexander Shulgin. Sous son influence et celle de Léo Zef, l'usage de MDMA en psychothérapie va se diffuser à la fin des années 70 et commencer à faire ses preuves. Utilisée à petite dose, elle facilite l'introspection et le lâcher-prise, aide le patient à verbaliser ses traumatismes et libère la parole et l'empathie en thérapie de groupe. Mais la MDMA ne va pas tarder à sortir des cabinets de psy pour prendre la forme d'une petite pilule nommée Ecstasy.
Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Au milieu des années 80, la MDMA fait son entrée foudroyante dans le monde de la fête. En Californie, là où la molécule a vu le jour, mais aussi à Détroit et à Chicago où se diffusent de nouveaux genres musicaux, la techno et la house music. Deux styles différents, réunis par la culture, club et pub d'ailleurs, et des sonorités électroniques. Si la MDMA plaît immédiatement aux fêtards, c'est sans doute parce qu'elle lève les inhibitions sociales, qu'elle donne une sensation de liberté et qu'elle exacerbe les sensations, en premier lieu celles qui sont liées à la musique et à la danse. Le sociologue Lionel Pourteau parle, lui, de logique associative pour expliquer l'imbrication de la techno et de la MDMA.
Nous avons le développement d'un type de fête particulière, les fêtes techno, dont les effets semblent pouvoir parfaitement, significativement, s'incorporer avec une drogue en particulier que l'on appelle l'ecstasy, et qui semble permettre un sentiment de jubilation particulièrement intense lorsqu'on met ensemble ces trois facteurs, le produit, le MDMA, une musique à base répétitive, ici la techno, et la mise en foule. C'est important de comprendre que c'est une logique associative. C'est ces trois facteurs qui font que les gens atteignent cet état modifié de la conscience qu'ils trouvent si fort, si intéressant. Parce que si c'était juste une question de produit, eh bien ils en achèteraient à leur dealer, ils iraient le prendre chez eux et la question serait réglée.
Ecstasy, le mot est lâché, c'est le nom commercial que l'on donne dès les années 80 aux pilules de MDMA. Une appellation d'ailleurs qui ne plaît que très moyennement à Chulgin. Celui qui a redécouvert la molécule quelques années auparavant n'approuve en effet ni ne désapprouve l'usage festif de la MDMA, mais il aurait préféré que les dealers appellent la pilule « empathie ». Car pour lui, la valeur principale de cette substance, c'est bien son rôle thérapeutique. Mais il observe avec intérêt la diffusion de sa molécule sur la planète. Un peu évanescent comme position. Quoi qu'il en soit, et rapidement, la techno, la house music et la MDMA traversent l'Atlantique. L'ecstasy arrive d'abord au Royaume-Uni, où la culture techno explose dans les années 80, puis en France. Produite localement, basée sur une matière première relativement économique, l'ecstasy est bon marché comparé à d'autres psychotropes venus du bout du monde, comme la cocaïne. Des petites pilules de toutes les couleurs, tamponnées de smiley et commercialisées comme des bonbons à une population jeune qui voit alors un stimulant anodin. Voilà, et le tour est joué. En Europe, comme aux États-Unis, l'ecstasy devient rapidement la reine de la nuit et touche toute une jeunesse en quête de fête. Un sujet en or, en tout cas pour les médias, mi-inquiet, mi-fasciné par cette drogue dont on ne connaît pas encore les effets exacts sur le long terme.
On la surnomme la pilule d'amour. Excitation sexuelle garantie, disent-ils. La discothèque est son lieu de prédilection. L'ecstasy est devenu populaire. Un phénomène de masse, surtout en Angleterre. Aux Pays-Bas, elle a fait son apparition il y a 4 ans. Depuis, elle s'est répandue comme une traînée de poudre. J'ai lu Loukachet, il existe des centaines de variétés d'ecstasy, sa combinaison chimique pouvant varier à l'infini.
Dès les années 80, les médecins mettent en avant les effets secondaires de cette drogue que les consommateurs pensent inoffensive. Déshydratation, accélération des rythmes cardiaques, angoisse, hallucination et, une fois le produit évacué, la descente qu'Alexander Shulgin, la première personne au monde à avoir expérimenté la MDMA, avait déjà éprouvée en 1976. Après l'euphorie qui dure quelques heures, la molécule peut laisser place à la lassitude, au découragement et même à une très grande fatigue. En cas d'usage répété, pas de dépendance physique, dit-on, mais une accoutumance et des risques de dépression ou encore des troubles de la personnalité. En 86, en France, la MDMA est classée sur la liste des stupéfiants. Elle est donc interdite. La même année, la molécule est inscrite au tableau 1 de la DEA aux côtés de l'héroïne, tandis que Nancy Reagan, la première dame américaine, mène une campagne d'éducation contre la drogue très active, intitulée « Say No to Drug ». L'ecstasy, affirme certains médecins, crée des trous dans le cerveau, et surtout, elle tuerait plusieurs dizaines de consommateurs par an. Alors, Alexander Shulgin a-t-il assassiné 100 adolescents britanniques, se demande le Daily Mail. Au journaliste qui le questionne, le chimiste californien donne systématiquement la même réponse. Non, la MDMA n'est pas plus mortelle que l'aspirine. Ce n'est pas la molécule, mais son interdiction qui est néfaste. Selon lui, cette mesure, combinée à une hausse de la demande, encourage les dealers à baisser la qualité en coupant la molécule avec d'autres substances. Et, comme le confirme le docteur Zorka Domic, au micro d'Elisabeth Bouvet sur RFI, la polyconsommation, ça veut dire alcool compris notamment, c'est ça le danger majeur.
Les dangers, c'est qu'ils peuvent perturber le fonctionnement du système nerveux central. C'est ne pas un hallucinogène, mais comme c'est un stimulant assez important, il peut provoquer des troubles du comportement, de l'agitation, des déficits aussi de la mémoire, l'attention. Si on prend de l'ecstasy très souvent, évidemment, ça peut provoquer aussi des pathologies un peu plus importantes comme l'anxiété, l'insomnie, et un peu aussi d'hallucinations visuelles, auditives. Et puis de dépression.
En fait, l'ecstasy recoupe plusieurs pilules finalement, puisque c'est coupé parfois avec d'autres produits, d'autres substances.
Voilà, ça c'est le danger majeur, parce qu'on ne sait pas la composition exacte. Et en France, n'existe pas de testeurs. Dans d'autres pays, les testeurs sont autorisés, et donc on peut connaître la composition de ces produits.
Alexander Shulgin, sans qui l'ecstasy n'aurait peut-être jamais existé, défend la légalisation de la MDMA et de toutes les substances psychoactives. Oui, toutes, quelles qu'elles soient. Parce que selon lui, ce n'est pas la MDMA qui est dangereuse en soi, mais la méconnaissance de celle-ci entretenue justement par son interdiction. S'entourer de personnes de confiance, ne pas boire d'alcool, respecter les doses préconisées, prendre de la MDMA pure... Alexander Shulgin défend une consommation, disons, raisonnée de sa molécule et nie toute responsabilité dans les décès liés à l'ecstasy, associés ou non à d'autres produits. Une position radicale à l'inspiration clairement libertaire, cette philosophie politique anglo-saxonne qui défend la liberté individuelle contre l'État. Suite à l'interdiction de la MDMA aux États-Unis en 86, Anne Shulgin, la femme d'Alexander, et les praticiens de la thérapie psychédélique sont déçus. Désormais, ils ne pourront plus utiliser la molécule avec leurs patients. Mais le couple Shulgin va poursuivre la quête entamée dans les années 70 et continuer de tester les dizaines et les dizaines de substances synthétisées par le chimiste de Berkeley, qu'il classe, selon une échelle connue sous le nom de Rating Scale Shulgin, de 1+ à 4+. Des produits stimulants, aphrodisiaques, apaisants, narcotiques, des substances qui altèrent l'audition, qui accélèrent la perception du temps, qui provoquent la violence, le rire ou l'amour. Certaines de ces molécules sortent parfois du laboratoire de Shulgin pour faire l'objet de recherches légales. D'autres restent interdites, malgré le potentiel thérapeutique que le couple y perçoit, comme dans le cas de la MDMA. D'autres encore sont gardées secrètes, tant elles pourraient être dangereuses. Alexander Shulgin décrit l'une de ces molécules qu'il assimile à Dieu.
Il existe une catégorie assez peu commune, que je n'ai expérimentée que deux ou trois fois dans ma vie. Que j'ai classé 4+. Tout est sous votre contrôle. J'ai regardé un chat sur la colline et le chat m'a regardé, je lui ai souri et il s'est enfui. Avec cette drogue, vous contrôlez le chat et tout ce qui est autour. Un contrôle total de mon environnement et une extase totale. Au bout d'une demi-heure, dans cet état incroyable, je me suis demandé si on pouvait vivre cette extase toute sa vie. Ça m'a terrifié de tout contrôler. Ce genre de choses peut arriver et c'est dérangeant, car vous vous rendez compte que les choses peuvent être irréversibles, que l'intégrité de votre esprit et de vos sens peut être modifiée de façon irréversible. Et ça fait peur.
Non seulement Alexander Shulgin synthétise et expérimente de nouvelles substances psychoactives jusqu'à faire sourire les chats, mais il va rendre ses recherches publiques au-delà du monde de la chimie. En 1991, alors que l'ecstasy, appellation commerciale de la MDMA, fait résonner son nom dans les clubs du monde entier, le chercheur et sa femme, Anne Chalguin, publient à leurs frais un ouvrage dont les maisons d'édition ne veulent pas, Pical, dont l'acronyme signifie en français les phényléthylamines que j'ai connues et aimées, avec comme sous-titre une histoire d'amour chimique. Un récit de 1000 pages, à la fois scientifique et autobiographique, dans lequel Alexander Chalguin détaille les effets et les formules de 179 substances appartenant à la même famille de molécules que la MDMA. Un affront pour les autorités et l'assurance pour le chercheur que ses travaux ne seront pas perdus après sa mort. 2 ans après la publication de Pical, des agents des Stup, avec lesquels Chalguin collabore encore à l'époque, perquisitionnent son laboratoire. Sa femme se souvient.
Les soucis ont commencé après la publication du premier livre. Sacha avait une licence et il était en très bon terme avec les chimistes de la DEA. Car les chimistes aiment la chimie.
We were here for the call. We'll discuss
let's
all that.
Let's move out of here. We'll
walk up the road.
If you try to resist it, the lawful detention will be an arrest.
L'un des agents a demandé « Vous n'avez pas de peyote par hasard ?» On a répondu que oui, juste là, à leurs pieds. Ils ont bondi et on a soudain pris conscience qu'ils avaient peur de ces choses, d'un simple petit cactus. Ils ne comprenaient pas les psychédéliques. Ils imaginaient que ça concernait les gens incontrôlables, hors de la société.
Suite à cette perquisition, la licence d'Alexander Chalguin est révoquée, une partie de ses produits confisqués, ses découvertes classées comme stupéfiants et interdites. Malgré tout, Chalguin continue ses recherches et se consacre à des produits légaux. Et en 1997, il publie un second livre, consacré celui-là aux tryptamines, les tryptamines que j'ai connues et aimées, Tikal. Ces deux ouvrages, Pical et Tikal, sorte de yin et de yang de la défonce, consacrent Alexander Chalguin, déjà connu comme le parrain de la MDMA, comme figure de la communauté psychédélique. Dans les années 2000, le développement du web donne une nouvelle envergure aux travaux et aux livres de Chalguin que la DEA considère comme des livres de recettes à destination de ceux qui souhaitent synthétiser des drogues. Parmi les continuateurs de Chalguin, des chimistes en herbe et des psychonautes, comme on appelle ceux qui cherchent à analyser les effets de la drogue sur la conscience. Mais aussi évidemment des dealers. La diffusion des publications de Chalguin sur Internet participe au développement de ce qu'on appelle les nouveaux produits de synthèse NPS, en anglais Research Chemicals, produits chimiques de recherche, ou encore Legal Highs, drogue légale. Des drogues dérivées de molécules illicites, parfois inspirées des recherches de Chalguin, synthétisées dans des laboratoires clandestins du monde entier par des chimistes plus ou moins amateurs qui livrent par la poste. Des NPS aux effets secondaires encore mal connus, beaucoup plus puissants que l'ecstasy, bien qu'ils en empruntent parfois le nom. Et ça tient, tant qu'ils ne sont pas mis au jour par les autorités, car en matière de stupéfiants, tout ce qui n'est pas encore interdit est autorisé. Ce qui réjouit Chalguin d'un point de vue scientifique, mais pas commercial, comme il explique dans cette interview accordée à Vice en 2013.
Est-ce que ces laboratoires vous consultent? Parce qu'ils travaillent à partir de vos créations.
Oui, oui, ils font leurs propres affaires. Ils ont leurs propres influences. Une énorme influence, car ils gagnent beaucoup d'argent. Ce que j'ai toujours voulu éviter. L'amusement ne m'intéresse pas. Je passe à autre chose. Je n'ai rien à voir avec l'aspect financier.
Oui. Et ces personnes ne vous consultent jamais pour des recommandations.
Non. Ils observent, ils se renseignent sur les articles que je publie et c'est tout.
Un an après cette interview, en 2014, Alexander Chalguin meurt dans sa ferme californienne à presque 89 ans en homme libre. Défricheur, il s'est illustré pour avoir été le premier à expérimenter la MDMA sur lui-même, et le premier à consacrer sa vie aux amphétamines et autres substances psychoactives, laissant le monde libre de décider comment utiliser ses découvertes. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ici le cas de le dire. Depuis quelques années, l'usage encadré de la MDMA, associé à la psychothérapie, est légalement testé dans le traitement du stress post-traumatique aux États-Unis, tandis que la recherche médicale sur les substances psychédéliques a été relancée un peu partout dans le monde. Un usage thérapeutique conforme aux visées premières de celui qui popularisa celle qu'on appela tour à tour Adam, Molly, Ecstasy, la MDMA. Call her how it is. Hendrix. I promise I swear, I'm gonna admit it. Yo. Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, Represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fuck it, mask on. Mask on, fuck it, mask on. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Two cups, toast out with the game. From food stamps to a whole nother domain. Out the bottle, I'm a living proof. Ain't compromising, half a million on the coup. Drug houses, looking like Peru. Graduated, I was overdue. I'm a pink money, I can barely move. Ask about me, I'm gon' bust a move. Red James, 33 chains. Ocean now, cruising Biscayne. Hit fire, top off, that's a liability. Hit the gas, boosting my adrenaline. Big fire, Percocet, Miley Percocet. Big fire, Percocet, Miley Percocet. Big fire, represent, gotta represent. Gang, gang, chase a chick, never chase a bitch. Big fire, mask on, fuck it, mask off. Big fire, mask on, fuck it, mask off. Big fire, Percocet, Miley Percocet. Big fire, chase a chick, never chase a bitch. Chase no bitches. Photo maybe, I drive anything. Buy my rings, make them go insane. My guillotine, drink from melazine. Drink from taking beams, go to those extremes. Let's go. Parliament, calamari wins, Parlay in Vegas, we was in attendance. Let's go. Before the business, Theodore lenses, Theodore prescriptions, Focus on the mission, put my intermission. Hold on. Never take a break, we can't pull up. Switch states, switch out far in place. Speech, ain't no way, ain't no fucking way. No, we contemplate, we didn't contemplate. No, rob the bank, we gon' rob the game. Again, they gain, we gain. But they are not the same. We been Percocet, Miley Percocet, being fine, Percocet. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de la MDMA avec notre invitée Anne Coppel. Bonjour.
Bonjour.
Sociologue spécialisée dans la politique des drogues et militante associative, vous avez fondé l'AFR, l'Association française de réduction des risques. C'est quoi le concept de réduction des risques dans le domaine de la drogue?
Enfin, j'aurais commencé à dire que le concept de réduction des risques, ça vaut pour toute la prévention.
Bien sûr, c'est pour ça que je vous demande, sur le terrain des drogues,
c'est-à-dire que
même
sur le
concept.
Ça vaut pour toute la prévention, comme vous le disiez, si tu veux faire de la moto, il faut mettre un casque, si tu veux traverser la rue, il faut regarder à gauche et à droite. Enfin, je sais pas, je veux dire, toute la prévention repose sur la réduction des risques. Mm-hmm. Bon, à l'exception des drogues, parce que comme les drogues sont illicites, on s'était dit, c'est pas la peine de dire... je sais pas moi, si vous prenez de la MDMA, ne prenez pas de l'alcool en même temps.
Ouais.
Ça, c'est de la réduction des risques. Mais comme on se contentait de l'interdit, il n'y avait pas de réduction des risques. Donc, il n'y avait pas de prévention
Bien sûr.
Aucune prévention. Il n'y en avait pas eu, par exemple, pour le cannabis. Pour le cannabis, on s'est contenté de dire non, on ne prend pas de cannabis,
c'est interdit. Circuler. Quoi.
Voilà, circuler. Et on n'a jamais dit aux mômes que non, il ne faut pas prendre un joint le matin en se réveillant, que c'est un usage récréatif, donc ça, on peut faire ça éventuellement avec des copains, on a intérêt à faire ça le plus tard possible. Enfin bon, donner toutes les informations sur les risques et les conséquences néfastes, parce qu'il y a des conséquences positives, bien sûr, parce que sinon on n'en prend pas. Mais au-delà des conséquences, il faut aussi enseigner les conséquences positives, c'est-à-dire savoir pourquoi on consomme, qu'est-ce qu'on cherche.
Oui.
Et il faut aussi enseigner comment limiter les conséquences négatives. Et ça, ça vaut, je vous dis, ça vaut pour les drogues illicites comme ça vaut pour l'alcool.
Bien, alors la petite musique de fond qu'on a entendue, c'était un téléphone qui a sonné. Okay. Donc ça veut dire, si je vous suis bien, on va rester sur le cannabis, oui. Et puis la MDMA. Oui. Peut-être ce que vous nous dites, c'est mieux vaut en consommer bien sûr modérément à des moments qui ne sont pas risqués que de se boucher les yeux en disant de toute façon c'est interdit, c'est risqué, donc on en prend quand même n'importe quand. C'est ça en fait, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est en prendre raisonnablement, voilà. Donc c'est en prendre de façon récréative, parce que sinon on en prend de façon dépendante, donc ça veut dire qu'on finit par... Oui, c'est une forme de pathologie quand même. Hein.
Alors oui, donc, mais ça pose la question du risque de la dépendance pour le coup. Mais comment gérer ça, en prendre de temps en temps, le risque de la dépendance, il est là.
Bien sûr. D'ailleurs, c'est un risque premier pour le tabac, pour l'alcool et pour les médicaments psychotropes. Donc, si vous voulez, tous les psychotropes rentrent dans ce problème-là. C'est un problème commun. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la politique française, les drogues licites et illicites sont classés dans le même c'est la même chose, je veux dire, dans la mission qui s'occupe des drogues et qui a la responsabilité des politiques françaises, ouais, en la matière, s'occupe aussi bien des drogues licites que des drogues illicites, sauf les médicaments. Parce que les médicaments...
Ah, c'est un marché, vous voulez dire.
Ah, bah oui, exactement.
Oui, donc, je vous aide à le lire.
Voilà, voilà.
Bon, quel est votre regard justement sur la politique menée en France, puisque nous sommes en France, concernant les drogues? Alors, les drogues de grande consommation, et pour l'instant, c'est interdit, hein, c'est illégal.
Oui, oui.
Est-ce qu'on a pris le bon chemin?
On a pris le chemin le plus catastrophique, parce que... Et non seulement ça, mais on en a les preuves. Parce que on a la politique la plus répressive française en matière de drogue, oui, qui réprime essentiellement à 90% des usagers, et maintenant c'est 90% d'usagers de cannabis, hein, parce que avant c'était l'héroïne. Mais bon, l'héroïne, comme ça a été surmonté grâce à la réduction des risques, donc il restait plus que le cannabis. Donc on a une politique répressive qui se focalise sur la moins dangereuse de toutes les drogues, finalement, la plus consommée, sans résultat, puisque on a les plus mauvais résultats en Europe. Alors, c'est une catastrophe. On a eu cette politique de réduction des risques, elle s'est imposée, comme en France, sous la menace du sida.
Oui.
Par rapport à l'héroïne, là, à un moment donné, on s'est dit, bon, il y avait des milliers de morts, personne n'a parlé de ça. Il y a eu une catastrophe.
Si, on en a parlé quand même.
On n'en a pas beaucoup parlé, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Bon, donc, il y a eu une catastrophe sanitaire. Merci Simone Veil, parce que c'est elle qui a mis un dispositif expérimental en place de réduction des risques. Et en 4 ans, le problème a été surmonté. Et il a été surmonté comment? Parce que les usagers de drogue eux-mêmes ont pris c'est pas qu'une question d'outils, c'est la question de la responsabilisation. On fait appel à la responsabilisation des gens,
oui,
c'est-à-dire des gens qui consomment, ça s'appelle
bien
des drogués. Bon, et donc les drogués eux-mêmes ont commencé à ne plus échanger leurs seringues, ou ne plus utiliser de seringues, ou ne plus utiliser d'héroïne. Enfin, bon, chacun a fait son choix, hein, comme les homosexuels ont fait leur choix par rapport aux pratiques sexuelles.
Ouais.
Voilà. Et donc, et ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu une réduction de 80% des overdoses mortelles en 4 ans. Donc, c'est devenu une politique officielle. C'est la politique de santé officielle, sauf que personne ne la connaît. Elle est quasiment clandestine, parce qu'on tient toujours des discours de guerre à la drogue, comme si on continue, comme si de rien. Bon,
parce qu'on n'a pas combattu le tabou, il y a une histoire de tabou aussi de la part de
ceux qui prennent
des décisions.
Sans doute,
Alors, pardonnez-moi de vous couper.
Allez-y,
il y a une question importante. Qui prend aujourd'hui de la MDMA? Alors, on l'a dit, pas seulement les rêveurs, des rave parties, hein, adeptes de la techno. Beaucoup de jeunes en prennent en soirée. Entre amis, je vous présente Annel Verzo, qui est en face de vous, qui est notre reporter. Bonjour Annel.
Bonjour.
Vous êtes allé à un festival de musique et vous avez rencontré des consommateurs de MDMA.
Voilà, je suis allée au festival Solidays à Paris et c'était à la fin du mois de juin.
L'ambiance était comment?
Elle était bonne, familiale, festive à la fois.
Bon, alors, comme d'habitude d'ailleurs, dans ce festival, vous avez rencontré Sarah et Luc, hein, deux amis qui aiment faire la fête, tout simplement.
Voilà, comme beaucoup de jeunes, ils ont la vingtaine, travaillent et prennent régulièrement de la M.
De la M, DMA, c'est une réduction, c'est quoi?
Oui, c'est ça. La M, c'est MDMA.
Ah, d'accord.
Et la C, c'est la coke.
Bien. Alors, écoutez, on va les écouter. Je précise que c'est pas une, un encouragement à consommer des drogues. C'est pas une apologie de la drogue, ce qu'on va entendre. Mais le journaliste, il va se confronter au réel. Et le réel, c'est ça.
Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Sarah. Et toi?
Et moi, c'est Jules.
Vous avez quel âge?
Moi, j'ai 22 ans.
Moi, j'en ai 24.
Et vous prenez souvent de la MDMA ou occasionnellement, c'est festif,
c'est festoche.
C'est festoche. Moi, c'est des périodes, en fait. Il y a des périodes où je vais en prendre plus que d'autres. Ouais. Et en fait, la défonce est joyeuse très longtemps. Moi, ça m'est déjà arrivé sur 5 heures, quoi, où j'étais heureux.
Tu pars vraiment en voyage, quoi, un petit peu. Enfin, quand on dit le mot trip, là, c'est quand même pas de LSD, des trucs comme ça. Il y a quand même un truc où t'es dans ton petit monde, quoi. Genre, tu vois, quand tu te balades là, comme ça, tu vois, au milieu de Solidays, il y a des milliers de personnes, t'as pris de la M et tout. Je te promets, tu vis un autre truc. Et du coup, le lendemain, tu sers à rien. Par contre, ce soir-là, t'as fait, mais tout.
Vous en prenez combien dans une soirée comme ça,
quatre,
de festival?
Moi, 4 paras, généralement, c'est que c'est cool.
4?
Ouais.
Ah ouais,
à 0,2 mg. Mais après, je suis gros, chérie. Hein.
Moi, j'en achète genre 3 par jour. Genre là, tu vois, quand je suis allée à Willow Green pour 2 jours, j'en avais acheté pour mon ami et moi 5, 6. En fait, c'est pour que ça se vend bien. Genre, c'est 10 balles le.
10 euros la dose.
Oui, voilà, oui, c'est ça.
Si t'en prends 5-6, ça te fait 50-60 euros, quoi.
Oui, voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est que t'en prends un, ceux que t'as acheté toi, et puis dès que tu prends la drogue, tu rencontres plus de monde qui t'en propose, tu vois. Et c'est là où, si t'es un petit peu dans l'escalade, le moment où tu viens d'en prendre un et que t'es chaud, quoi, t'as envie de. Voilà, c'est là où t'en prends un deuxième, un troisième, et c'est là où après, à 4h du matin, mais t'es chiffon-pompon, quoi.
T'es chiffon-pompon.
Bon, en tout cas, ça soutient très bien la fête, et niveau rapport qualité-prix, pardon, c'est top.
Et la MD, vous la trouvez où? C'est sur internet ou il y a des dealers comme pour
non,
la
coke? C'est la même chose. C'est... Après, il y en a qui ont un petit peu leur spécialité, tu vois.
Tu t'appelles, t'as un numéro et ça te livre, hein, finalement.
Ah oui, t'as un numéro, tu sais qui c'est derrière quand même ou...
Bah non, tu sais que c'est un plan, quoi. Ils ont des noms qui se donnent, ils t'envoient des textos un petit peu pour.
Tu sais pas toujours si ça se vaut, quoi. Genre, il y a un numéro, il peut te vendre de la B, de la M, de la C.
C'est un commerce immense, en fait. Mais c'est juste hallucinant parce qu'en fait, nous maintenant, on fait ça, on se dit même plus, tu sais, on fait quelque chose d'illégal, quoi. On prend le numéro, on appelle, c'est la supérette en fait, tu vois, on fait une commande comme on commande des sushis, quoi, finalement. C'est incroyable quand tu réfléchis, tu vois.
Non, mais ta commande peut avoir du retard, si tu peux ne pas être content.
Bon,
tu
peux t'énerver contre le mec, enfin, tu vois, c'est ça, quoi.
Après, il t'envoie des messages de promo.
Alors ça, de promo,
mais oui, alors ça c'est le truc, c'est comme ça que tu sais que t'as des numéros encore en vie. Genre à Paris, ils font beaucoup ça. Genre ils t'envoient un message, ouais, salut, c'est machin, j'ai de la nouvelle salade, tu vois.
Mais la MDMA, vous en prenez tous les jours ou c'est occasionnel?
Non. Je peux pas tous les week-ends prendre de la M, sinon je suis morte. La M, ça te fout un gros coup de pied au cul, tu vois, pendant 2 jours.
T'es calmé,
ouais.
Avant d'en reprendre, t'attends un peu quand même.
Tu réfléchis beaucoup.
Vu que déjà à côté on boit et tout aussi un petit peu, c'est pas possible, tu vois, c'est pas possible.
Après, le corps il tient pas.
Ah non, mais franchement c'est vrai, mais tu vois, moi j'ai de la chance, je fais pas des bads, mais il y a des gens qui font des descentes, c'est des bads, genre pendant 2 jours, t'es en remise en question, ton corps est faible. Moi, tu sais, tout à l'heure, je te disais que moi je sais que j'étais morte physiquement pendant 2 jours, mais il y a des gens sur qui ça a vraiment un effet psychologique et tout, et il y a l'euphorie et il y a le contre-coup juste après.
J'ai déjà tapé des grosses descentes vraiment affreuses. Avec des pupilles absolument dilatées, à plus pouvoir bouger, être dans le mal. J'en suis arrivé, j'étais chez un pote, j'ai bu du lait pourri, 1 litre. Et je me suis rendu compte à la fin qu'il était pourri parce qu'on me l'a dit, tu vois, enfin j'étais vraiment dans le mal absolu, quoi. Mais c'est des gestes qui sont assez rares finalement.
C'est parce que t'avais mélangé des produits en fait, c'est ça?
J'ai mélangé, mais sinon là c'est vraiment l'effet uniquement de la MD, ouais.
Ouais. Voilà.
Il y a le concert de The Blaze qui commence juste derrière là.
Ah. Donc, c'est très très stylé The Blaze.
Voilà, Anne Coppel, juste demandez ce que ça vous inspire.
C'est-à-dire, c'est une réalité. La réalité, c'est que c'est consommé par des jeunes de plus en plus nombreux. Donc la question, c'est d'être pragmatique, je dirais, de prendre la réalité à bras-le-corps, et puis de tirer les enseignements de l'expérience, parce que ces jeunes-là, ils ont quand même acquis une certaine expérience, ils connaissent les abus,
ouais.
Et il faut que ça soit diffusé largement, voilà. Il faut que l'information soit diffusée largement. Et il faut faire appel. C'est comme ça, on n'a pas d'autre choix. Parce que si ça avait marché, la prohibition, pas de problème. Mais ça ne marche pas. Donc, les gens ont accès aux produits.
Ah, c'est ce qu'elle dit. Et puis,
voilà, on voit bien, c'est tout. C'est pas une question. C'est mondial. C'est pas que la France, hein, c'est mondial. Bon, donc c'est l'Asie, c'est la Russie, c'est bon. Donc, il faut que les gens apprennent à consommer de façon raisonnable. Et bon, je dis pas que c'est facile, mais c'est la seule chose qui marche.
Ce sera le mot de la fin, Anne Coppel. On retient quand même cette expression qui était très amusante de votre interviewée. C'était chiffon pompon. Marrant, chiffon pompon, rien là-dessus. Merci madame, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de la MDMA, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Arnaud Caillé qui était à la technique aujourd'hui.